Quand Jésus a questionné les disciples, de quoi discutiez-vous en chemin? Ils discutaient pour savoir qui était le plus grand. Et ça, c'est pas qu'une fois. C'est pas qu'une fois. Lorsque Jésus était en route pour Jérusalem, alors qu'il venait de les informer d'une façon très claire, qu'il allait être arrêté, qu'on allait le se moquer de lui, qu'on allait le fouetter, qu'on allait lui donner la mort, mais aussi il a parlé de sa résurrection et que au bout de 3 jours il ressusciterait. Peu de temps après, les disciples discutaient pour savoir qui était le plus grand. Et puis même après que Jésus leur ait annoncé qu'un des leurs allait le trahir, allait le livrer, ils ont encore, il est dit, qu'une contestation, donc une vive discussion, une querelle s'est élevée entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors vous voyez, la troupe que le Seigneur avait avec lui, eh bien l'évangile le transforme. Transforme parce que déjà ils étaient restés 3 ans avec lui, mais le Seigneur va les transformer. Va les transformer. Quelle patience. Et jusqu'au bout, il va les accompagner, il va les transformer, et puis ensuite, eh bien, il va envoyer son Esprit Saint pour continuer donc de les enseigner, pour continuer aussi de les inviter, de les transformer en fin de compte. Qui est le plus grand? À chaque fois, le Seigneur Jésus a placé un petit enfant. Si vous ne devenez pas comme ce petit enfant. À chaque fois, c'était sa méthode de regarder ce qui était petit. Et les disciples regardaient ce qui était grand. Mais ça, c'est nous. Hein. Même lorsque Jésus, justement, a parlé donc de cette, que, de façon très claire, qu'il allait être arrêté, etc., eh bien, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ont demandé une faveur spéciale, être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Et même la maman était là pour appuyer leur demande. C'est toujours la compète. Qui va être le plus grand? Qui va être le plus grand? On fait ça étant enfant et on continue à faire ça lorsqu'on est plus grand. Et puis on continue à faire ça même dans l'église. Qui est-ce qui est le meilleur? Qui est-ce qui est le plus grand? Qui est-ce que ceci? Qui est-ce que cela? Ça, c'est la grosse difficulté. Alors, il semblait que ses disciples étaient incorrigibles parce qu'à chaque fois, ils revenaient à ça et pourtant le Seigneur, donc, va les utiliser. Et ça me fait penser aussi à Jean-Baptiste lorsqu'on est venu le trouver pour lui dire, voilà, celui qui était avec toi, et dont tu as rendu témoignage. Eh bien, maintenant, tous sont à lui. Et il baptise. Et Jean va répondre, entre autres, il faut qu'il croie ce que je diminue. Et c'est là ce qui est important. C'est que le Seigneur Jésus soit à la première place et soit toujours à la première place. C'est toujours très difficile. Parce qu'on a toujours tendance à... Quand on attend quelques compliments, c'est bien faire ce que tu fais, etc. Quand c'est difficile de rester petit. Donc, il faut qu'il croie. Semeur paraphrase en disant, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Difficile. Alors, d'ailleurs... C'est mon sécateur dans la voiture, mais c'est pas grave. Tiens, il y en a un aussi dans la tienne. Hier, je suis passé à Champs parce qu'il y a une vigne derrière là, notre bâtiment. Et je me suis dit, bon, là, j'ai un vieux cep, de 50 à 60 ans à peu près. Et je me suis dit, je vais aller couper un sarment qui a poussé durant l'année. Vous vous rendez compte? La longueur. J'ai fait esprit de couper un peu plus. Ça, c'était le sarment de l'année précédente et j'ai taillé dessous pour montrer que, bon, ben, il n'y avait pas laissé grand-chose là, sur le serment l'année précédente. Et il a fait un rocher sur le côté, il aurait pu en faire deux. D'ailleurs, peut-être qu'il y en avait un deuxième, mais je l'ai laissé d'ailleurs. Et là, ben, si je devais, j'avais dû le laisser, que j'avais dû tailler, j'aurais coupé ici, à cet endroit, deux yeux. Dans certaines régions, on coupe un œil. Mais il y a des gens qui ont des vignes ici. En tout cas, vous buvez le Côte du Rhône, je suppose. Ou vous ne buvez que de l'eau. Voilà. Donc, vous vous rendez compte? Si on laisse ce sarment comme ça, eh bien, maintenant, il aurait commencé à germer, et sans qu'on taille la vigne, c'est au bout, ici, qu'il va pousser des rogers, et c'est au bout, ici, qu'il va avoir les fleurs pour produire les fruits. Autrement dit, très loin du cep. Et pour finir, ça finit par dégénérer. Ça ne peut pas aller pour une vigne. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, pendant que je chantais, je me suis dit, le Seigneur, il a taillé sec. Je suis né à Marseille, j'ai vécu donc, j'ai 68 ans, comme ça vous savez mon âge. J'ai vécu donc 66 ans à Marseille, et puis il a décidé de tailler la branche Marseille. Voilà pourquoi on est en Ardèche. Alors, c'est vrai qu'il a taillé sec. Enfin, il a taillé. Mais je suis très heureux, hein. Je suis sûr que c'est là que le Seigneur nous veut. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, on est vraiment très heureux. Les Ardéchois sont sympas. Mais les Dromois aussi. Voilà. Donc, ce cep. Et là, j'en reviens à l'évangile de Jean au chapitre 15 et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles si vous voulez. Dans Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Ou encore il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. Souvent dans nos villes, c'est comme moi je demeure en vous, mais le texte dit comme moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Dans ces 11 versets, 11 fois, le verbe demeurer est répété. 11 fois. Verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il y a quelques jours, j'ai voulu voir un ami, justement celui à qui je voulais quémander ce cep de vigne. Il m'en avait donné un il y a quelques années et son père avant lui m'en avait donné un. Il y a quelques années. Cet ami, à peu près mon âge, je pense. Donc, voyez à peu près à quoi ça peut remonter. Son père, bon, est parti depuis pas mal d'années. Et donc, j'ai dit, puisque j'ai envie de parler du cep, il faut absolument que j'ai un cep, parce que quelqu'un avait dû penser que ce cep qui était sur la terrasse de la vigne de l'église servait à rien. Et quelqu'un me l'avait jeté, donc je ne l'avais plus. Et je voulais absolument avoir un cep, mais un cep un peu particulier, et je vous en parlerai après. Voyez, ceci, ou cela, ça s'appelle une marcotte. Normalement, le cep, je pense qu'il était enterré à peu près jusque-là. Donc, cette partie-là était destinée à être dans la terre. Une marcotte. Donc, c'est le vigneron qui décide de la taille. Quand je vois une vigne, avec toutes les branches qu'il y a dessus, tous les sarments qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'il faut que je coupe? Là, la vigne à Charmes, elle a été abandonnée avant qu'on arrive, et je l'ai un petit peu rattrapée il y a 2 ans, et il y a plein de sarments. Qu'est-ce qu'il faut que je taille? Il va falloir que je fasse, j'ai essayé de montrer à mes jeunes comment tailler la vigne l'année passée, comment qu'il fallait un petit peu l'éclaircir, mais je les ai pas vus là, très intéressés à apprendre de la vigne. Donc, il va falloir que je la taille ou que je demande des conseils un peu plus. Je crois que j'avais déjà taillé des vignes quand j'étais gamin, puisque quand mes parents ont acheté leur maison à Plan de Cuq, il y avait quelques vignes, j'avais demandé à un voisin comment on faisait. Donc, j'avais appris quelques bricoles, mais je serais incapable de conduire une vigne, à planter une vigne et puis de la conduire dans la taille. Parce que il faut être vigneron. Que de choix! Que de choix lorsqu'on est devant une vigne. Que laisser? Et que couper? Pourquoi celui-là de serment et pas l'autre? Parce que lorsqu'on taille, là, elle est morte en cours de route. Ça a été taillé ici. Mais, il y avait une autre branche sur le côté. Et ici, si ça avait poussé, ça aurait fait un sarment ou deux même. Et après, ben, le vigneron en aurait laissé qu'un. Pourquoi celui-là et pas l'autre? Ça nous montre combien mon père est le vigneron. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. C'est lui qui sait, c'est lui qui voit, c'est lui qui projette, c'est lui qui a tout devant ses yeux et tout entre ses mains. Et peut-être sans aborder la question, ça serait trop long, le choix, l'élection, pourquoi l'un pas l'autre? Pourquoi je connais le Seigneur, je l'ai accepté, pourquoi je suis à son service? Et pourquoi mon frère qui a grandi pareil que moi dans la même maison avec 2 ans de différence me rejette Dieu? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi Annie m'a rencontré dans le bus et a fini par venir au Seigneur? Et puis, bon, ben, son frère est bien gentil, mais il connaît pas le Seigneur. L'épouse qu'il a rencontrée était plutôt opposée. Bon, maintenant elle était un peu plus adoucie. On peut parler un peu. Pourquoi? Pourquoi l'un par l'autre? Pourquoi nous permet-il de le connaître et ensuite de parler de lui? On n'a pas la réponse, mais il sait. C'est lui le vigneron. Jésus est le cep. Il dit, je suis le cep, le vrai cep. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il enlève. Terrible, ça, vous ne croyez pas? Alors, commencez pas à vous torturer l'esprit pour savoir si vous avez porté du fruit ou pas. Mais, c'est vrai qu'on peut se poser la question, non pas, est-ce que j'ai porté du fruit, mais est-ce que je suis prêt à ce que le Seigneur taille, nettoie, on va y venir, purifie, pour que, là, cette année, je porte du fruit à sa gloire. En fin de compte, ce qui est hier, on peut pas recommencer. Hein. C'est passé. Si on a fait quelques bêtises, on peut vraiment demander pardon au Seigneur. C'est même l'occasion, pendant la Sainte-Seine, de s'examiner, de réfléchir un petit peu. Mais on peut pas recommencer. Par contre, la page est blanche pour les mois à venir, n'est-ce pas? Et le Seigneur, je suis certain qu'il a déjà mis des titres et des sous-titres. Le problème, c'est est-ce que Jean-Luc va entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ou est-ce qu'il va faire la sourde oreille? Ou est-ce qu'il va choisir quelque chose qui lui fait plaisir? Parce que vous savez, il y a des choses qui me font plaisir aussi. Ou des choses que je préfère, ou que je préférerais, ou que je pense être bonne. Bonne pour Dieu même des fois. Mais elles sont bonnes pour moi, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont pas dans le plan de Dieu. Alors, voilà. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3 peut paraître énigmatique si on passe à la suite. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a quelques années, quand je lisais ce passage, et que je lisais donc, que voilà, mon père est le vigneron, celui qui porte beaucoup de fruits, il est monde, et puis ensuite je lisais que déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous annonçais, je dis mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Vous trouvez pas? Vous êtes jamais posé la question? Que vient faire là? Déjà vous êtes pur. Il n'y a que moi qui me suis posé la question? Ou alors vous n'avez pas lu l'évangile de Jean chapitre 15, non c'est pas vrai, je vous taquine, moi je me suis posé la question. En fin de compte, la réponse est dans le verbe émonder. Le verbe émonder veut à la fois dire, donc, nettoyer et tailler. En français également. Ce mot « émonder » vient d'un mot latin qui veut dire donc « nettoyer, purifier ». D'ailleurs, on dit aussi « on émonde les amandes ». On enlève la peau, on fait tremper les amandes dans l'eau bouillante, on enlève leur peau, ça s'appelle « émonder », « nettoyer ». Mais c'est sûr que quelqu'un qui est à la campagne, ben, il va émonder ses arbres, élaguer ses arbres. Certaines versions traduisent par tailler. C'est pas le mot tailler. Vous pouvez tailler une haie. Ok, vous allez raccourcir les branches. Mais c'est pas de l'émondage. L'émondage, c'est pour nettoyer l'arbre. C'est pour que, même en cours d'année, en cours de saison, lorsqu'il y a plein de branches, plein de feuilles, eh bien, le vigneron va intervenir pour que les grappes aient de la lumière, pour que certaines choses qui sont inutiles soient enlevées. C'est ça l'émondage. Et donc, vous comprenez mieux maintenant, le déjà vous êtes pur. Tob, je crois, traduit, déjà vous êtes émondé à cause de la parole. Et c'est vrai que la parole émonde. La parole nettoie. Elle va émonder ce qui n'est pas juste devant Dieu, mes fausses idées de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut faire, de ce qui me paraît juste. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui est en vous. Donc, les disciples, déjà, le Seigneur était intervenu. Et je crois que c'est vrai pour chacun de vous et pour nous et pour moi-même. Déjà, nous sommes purs à cause de la parole. Alléluia. Déjà, le Seigneur a travaillé. Déjà, le Seigneur a nettoyé. Déjà, le Seigneur a balayé plein de fausses idées, plein de fausses pensées. Mais ça ne veut pas dire qu'en cours de route, eh bien, ça ne va pas repousser encore. Hein. D'autres choses vont pousser. Il va falloir que le Seigneur élague. Nettoie, émonde, et peut-être tout à l'heure, pendant le temps de Sainte-Cène, ça sera l'occasion pour chacun de nous de se poser les bonnes questions. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore à émonder chez moi? Qu'est-ce que tu veux émonder, Seigneur? Seigneur, merci parce que déjà tu l'as fait. Parce que déjà à tes yeux, je suis pur, j'ai été purifié. Mais Seigneur, viens. Parle à mon cœur, montre-moi, à travers un chant, à travers un message, à travers une parole, à travers une lecture, à travers une rencontre même. Des fois, le Seigneur nous parle, rencontrant un tel autre, etc. Donc, savoir s'arrêter et laisser le Seigneur intervenir pour qu'il puisse donc nous émonder. Verset 4. Demeurez en moi comme moi en vous. Ou dans nos versions, peut-être comme moi je demeure en vous. Demeurez en moi comme moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il y a quelques années, quand je suis allé trouver donc Monsieur Brémond, il s'appelait Monsieur Brémond, son fils s'appelle André, et j'ai dit, voilà, j'aimerais bien un cep. Il me dit, je vais vous en chercher un, avec une marcotte. Et il a été me chercher un cep avec une marcotte. Bon, je savais ce que c'était qu'une marcotte, parce que j'aimais bien la campagne, donc je savais que c'était possible de marcoter un gros œillet. Pour obtenir un nouveau plan de groseillier. C'est possible de marcoter un noisetier. C'est possible de marcoter une glycine. Et une fois que vous avez mis une branche en terre qui est encore attachée à l'arbre ou à l'arbuste, eh bien, elle va prendre racine. Puis ensuite, eh bien, vous pouvez couper la branche et puis la planter ailleurs. Et ce monsieur à l'époque me dit, c'est une marcotte, mais on ne peut pas la couper. On ne peut pas la séparer du cep, sinon elle meurt. Je n'avais jamais entendu ça. Ce matin, j'ai quand même un petit peu fouillé sur Internet, et semble-t-il, ça serait possible quand même de couper. Parce que cette partie-là, bon, on voit pas parce que c'est une vigne qui est morte depuis longtemps et les racines ne sont plus. Mais il y avait quelques racines, il me les a montrées. Donc on aurait pu penser qu'il aurait pu couper. Mais finalement, je disais que si on coupe, eh bien, la marcotte, le plan à côté, est beaucoup plus sensible au phylloxéra. Il va pas vivre. Parce que ce n'est pas le plan initial, c'est la greffe, en fin de compte. C'est ce que tu as dessus qui va pousser. Mais quoi qu'il en soit, la plupart du temps, eh bien, il laisse attacher. J'ai vu même dans ce champ de vigne, il y a 3 jours, qu'il faisait jusqu'à 5-6 marcottages. Il pouvait remplacer plusieurs pieds de vigne comme ça. Parce qu'au lieu de replanter une vigne, lorsqu'une vigne mourait, eh bien, il marcottait. Donc c'était sa façon de faire. Bon, j'ai vu aussi que selon les régions, selon les AOC, on n'a pas le droit de le faire. Donc par contre, pour le Côte de Provence, semble-t-il, c'est autorisé. Bon, il y en a qui trichent, qui disent « je l'ai fait quand même », c'est ce que je disais ce matin, parce que je considère quand même, de toute façon, c'est quand même le même plan. Je suis d'accord, c'est quand même le même plan. Parce qu'en fin de compte, cette marcotte reste attachée au cep. Elle reste attachée au cep. On ne peut pas porter du fruit si on ne reste pas attaché au cep. Quelle belle leçon, vous ne trouvez pas? Moi, je suis émerveillé. Je me suis dit, le Seigneur, il a créé la vigne, cette taille stupéfiante, cette façon de pousser où il faut absolument qu'il y ait un vigneron, simplement, peut-être, non seulement pour les raisins et pour le fruit de la vigne, mais pour que nous puissions en recevoir un enseignement. Quel enseignement, quelle leçon le Seigneur Jésus va donner encore à ses disciples-là, alors qu'il était en route pour le jardin Gethsémané. Quelle leçon. Il venait même de discuter après avoir entendu que quelqu'un allait le livrer, et puis après s'être posé la question, qui est-ce? Ils ont encore discuté pour savoir qui était le plus grand. Vous rendez compte? Ça paraît fou, mais ça me ressemble très bien. Je ne sais pas si ça te ressemble à toi. même après avoir entendu des choses extraordinaires, des choses sérieuses, des choses, on a encore des futilités qui viennent dans notre esprit. Je crois que le plus dur, ce qui est le plus dur à tailler, c'est nos pensées, non? Alors, quelle leçon? Le Seigneur va leur parler de la vigne. Et je me suis dit, eh bien, quel est le plus grand parmi vous? Et là, il va leur parler du cep, de la taille en fin de compte. Vous rendez compte? Ah oui, tu veux grandir? Tu veux pousser de 2 mètres? Et tu penses qu'avec tes 2 mètres, tu vas être plus grand que les autres? Faire plus que les autres? Eh bien, si tu veux porter du fruit, ben, il faut que le vigneron taille. Oui, mais Seigneur, moi je l'aime bien ce morceau de branche. C'est moi ça. Et puis, ça, j'ai poussé. J'avais pas pensé vous dire ça ce matin. Combien de fois on pense qu'on a poussé? N'est-ce pas? Le jeu. Pour faire une parenthèse, il faut que je fasse attention aux parenthèses, mais je suis déjà à l'heure là. Quand l'ange Gabriel fait l'annonce à Marie et qu'il lui dit voilà qu'elle va être enceinte, dans nos versions on lit je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais si on veut traduire comme il faut, c'est voici la servante du Seigneur. Le jeu disparaît. Le jeu disparaît. Alors le jeu doit disparaître. Et le serment doit être taillé. Bon, je vais aller plus vite. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si vous examinez un cep de vigne, allez dans les champs cet après-midi. Profitez qu'il n'y a pas encore des raisins, comme ça on ne vous accusera pas d'en piquer. Et regardez les vignes, regardez la taille. Vous pouvez, bien sûr, voir où c'est que cette vigne a été taillée, voir où c'est que ça a été taillé l'année passée, l'année avant plutôt, voir encore des traces de taille un peu plus bas, et puis, rapidement, vous ne voyez plus où était le serment d'il y a 3 ou 4 ans. Le serment d'il y a 3 ou 4 ans disparaît. En fin de compte, il est intégré au cep. Il est dans le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Cette taille de la vie nous montre que, en fin de compte, pour porter du fruit, le serment, non seulement il ne peut exister de lui-même, mais il ne peut être de lui-même, et voire même ce qu'il est aujourd'hui ne se verra plus demain. Ce que je suis aujourd'hui ne se verra plus demain. C'est difficile peut-être de pas pouvoir dire « Ah oui, ben à Marseille je faisais ci, je faisais ça, etc. etc. » Bon. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je ne sais pas. Quels sont les projets? Je ne sais pas. Une page blanche. C'est vrai qu'on avait une certaine routine à Marseille. Des choses qu'on faisait chaque année. Régulièrement. Bon, il y a des choses qui vont demeurer, puis il y a des choses qui vont être taillées, enlevées. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est pas ce que je suis. Et je suis bien content de savoir que finalement tu savais pas d'où venait Ésaïe 55. Tout à l'heure, on m'a posé la question, pour savoir comment j'étais en relation avec des Anglais, j'expliquerai pas. Ésaïe 55, etc. Ben oui, j'ai dit, c'est parce qu'on est au départ d'Ésaïe 55. Mais je suis bien content que finalement vous le savez pas. parce que ça montre que ce qui compte, ce n'est pas que Jean-Luc et Annie aient été quelque part par là lorsque ça a démarré, mais ce qui compte, c'est ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur fait et c'est ce que le Seigneur va faire. Il faut qu'il croie ce que je diminue. Pour paraphraser comme ce semeur, il faut que je devienne de plus en plus petit et lui de plus en plus grand. Regardez bien ce cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Être dans le cep. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a peut-être 27 fois dans l'épître, la première épître de Jean, il y a peut-être 27 fois le mot demeurer qui est répété. Très intéressant. Bon, j'ai noté les versets, mais je ne vais pas vous les lire. Je vais vous laisser fouiller dans votre Bible. Réfléchir à se demeurer en moi. Oh, peut-être encore. Quand Jésus est à Jéricho et qu'il se dirige vers Jérusalem, il y a un certain petit bonhomme qui est sur un arbre, Zaché. Et le Seigneur va s'arrêter et va dire, Zaché, descends, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Alors, l'importance de demeurer, Jésus veut demeurer dans ma maison, dans ta maison. Il veut que tu demeures en lui, il veut que je demeure en lui. Sans lui, je ne peux rien faire. Je vais laisser la place à Bernard pour ce moment de Sainte-Seine. Mais c'est l'occasion pour chacun de nous de réfléchir. Peut-être que durant ce moment de Sainte-Seine, tu as besoin qu'un des anciens de l'Assemblée prie pour toi, parce qu'il y a quelque chose que tu veux exposer, ou tu as été interpellé par une chose. Peut-être que tu as quelque chose qui est venu devant tes yeux et tu veux présenter ça au Seigneur. Ah, tu peux le faire aussi à haute voix, pendant le temps de Sainte-Seine, prier, présenter ça au Seigneur. Mais on a chanté en temps mon cœur, hein. Tu peux le faire aussi dans ton cœur, n'est-ce pas? Je crois que c'est un moment où on s'approche de la table, on va partager le pain et le vin. Et j'ai le temps de chercher un verset, mais je l'ai oublié. On va partager le pain et le vin. Et on va réfléchir un petit peu à tout ce que dit la parole, n'est-ce pas? Je te laisse la place, Bernard.